La première idée de Douglas avait été de traiter Rizzio comme avaient été traités les favoris de Jacques III au pont de l'Oder, c'est-à-dire de lui faire faire une apparence de procès et de le pendre ensuite. Mais une pareille mort ne suffisait pas à la vengeance de Darnley. Comme c'était surtout la reine qu'il voulait punir dans la personne de Rizzio, il exigea que le meurtre eût lieu en présence de la reine. Douglas s'associa à Lord Ruthwen, sybarite paresseux et débauché, qui promit de pousser le dévouement en cette circonstance jusqu'à mettre une cuirasse. Puis, sûr de cet important complice, il s'occupa de trouver d'autres agents. Cependant, le complot ne put point se tramer si secrètement qu'il n'en transpira quelque chose. Aussi, Rizzio reçut-il plusieurs avis qu'il méprisa. Sir Jacques Melville, entre autres, essaya de toutes les façons possibles de lui faire comprendre les périls que courait, dans une cour jalouse et sauvage comme celle d'Écosse, un étranger qui jouissait d'une confiance si absolue. Rizzio reçut ces allusions en homme résolu à ne point se les appliquer, et Sir Jacques Melville, convaincu qu'il en avait fait assez pour l'acquis de sa conscience, n'insista point davantage. Alors vint un prêtre français qui passait pour un fort habile astrologue, qui se fit introduire jusqu'auprès de Rizzio et le prévint que les astres annonçaient qu'il était en péril de mort et qu'il eut surtout à se défier d'un certain bâtard. Rizzio répondit que, du jour où il avait été honoré de la confiance de sa souveraine, il avait fait d'avance le sacrifice de sa vie à sa position, que cependant, depuis ce temps, il avait pu s'apercevoir que les Écossais étaient en général prompts à la menace et lents à l'effet, que, quant au bâtard dont il lui parlait, et qui sans doute était le comte de Murray, il aurait soin qu'il n'entrât jamais assez loin en Écosse pour que son épée pût l'atteindre, fût-elle longue de Dumfries à Édimbourg. Ce qui voulait dire, en d'autres termes, que Murray resterait exilé toute sa vie en Angleterre, puisque Dumfries était une des premières places de la frontière. Pendant ce temps, le complot marchait toujours son train, et Douglas et Ruthwen, ayant réuni leurs complices et pris leurs mesures, vinrent trouver Darnley afin d'arrêter le pacte. Pour prix du service sanglant qu'ils rendaient au roi, ils exigèrent de celui-ci la promesse d'obtenir le pardon de Murray et des seigneurs compromis comme lui dans l'affaire de la course en tous sens. Darnley promit tout ce que l'on voulut, et un courrier fut envoyé à Murray pour lui dire quelle était l'expédition qui se préparait, et l'inviter à se tenir prêt à rentrer en Écosse au premier avis qu'il en recevrait. Puis, ce point terminé, on fit signer à Darnley un écrit par lequel il reconnaissait qu'il était l'auteur et le chef de l'entreprise. Les autres assassins étaient le comte de Morton, le comte de Ruthwen, George Douglas, bâtard d'Angus, Lindley et André Cariou. Le reste se composait de soldats, véritables machines à meurtre, qui ne savaient pas même de quoi il s'agissait. Darnley se réserva de fixer le moment. Le surlendemain du jour où ces conventions furent arrêtées, Darnley, ayant été averti que la reine était seule avec Rizzio, voulut s'assurer par lui-même du degré de faveur dont le ministre jouissait auprès d'elle. En conséquence, il se rendit à son appartement par une petite porte dont il avait toujours la clé sur lui. Mais la clé eut beau tourner dans la serrure, la porte ne s'ouvrit pas. Alors Darnley frappa en se nommant. Mais tel était le mépris où il était tombé près de sa femme que Marie le laissa dehors, quoique, en supposant qu'elle eût été seule avec Rizzio, elle eût eu tout le temps de le faire sortir. Darnley, poussé à bout par ce dernier événement, fit venir Morton, Ruthwen, Lennox, Lindley et le bâtard de Douglas et fixa l'assassinat de Rizzio au surlendemain. Il venait d'en arrêter tous les détails et de se distribuer les rôles que chacun devait jouer dans cette sanglante tragédie, lorsque tout à coup, et au moment où l'on s'y attendait le moins, la porte s'ouvrit et Mary Stuart parut sur le seuil. « Mylord, dit-elle, il est inutile que vous teniez des conseils secrets. Je suis instruite de vos complots et, avec l'aide de Dieu, j'y appliquerai bientôt le remède. » À ces mots, et avant que les conjurés eussent eu le temps de se reconnaître, elle referma la porte et disparut comme une vision éphémère mais menaçante. Tous demeurèrent interdits. Morton retrouva le premier la parole. « Mylord, dit-il, nous jouons ici un jeu de vie et de mort, et cela non pas au plus habile et au plus fort, mais au plus prompt. Si nous ne perdons pas cet homme, nous sommes perdus. Ce n'est donc pas après-demain qu'il faut le frapper, mais bien ce soir. » Tous applaudirent, jusqu'à Ruthwen, qui, tout pâle et tout fiévreux qu'il était encore d'une maladie de débauche, promit de ne pas demeurer en arrière. Le seul point qui fut changé à la proposition de Morton, c'est que le meurtre n'aurait lieu que le lendemain, car, de l'avis de tous, il ne fallait rien moins qu'un jour d'intervalle pour assembler les conjurés subalternes, dont le nombre se montait à 150. Le lendemain, qui était le samedi 9 mars 1566, Marie Stuart, qui avait hérité de son père Jacques V la haine de l'étiquette et le besoin de la liberté, avait invité à souper avec elle 6 personnes, au nombre desquelles était Rizzio. Darnley, dès le matin averti de cette circonstance, en prévint aussitôt les conjurés, leur faisant savoir qu'il les introduirait lui-même dans le palais de 6 à 7 heures du soir. Les conjurés répondirent qu'ils seraient prêts. La matinée avait été sombre et tempestueuse, comme le sont en Écosse presque toutes les premières journées de printemps, et vers le soir, la neige et le vent avaient redoublé d'épaisseur et de force. Marie était donc restée renfermée avec Rizzio, et Darnley, qui s'était avancé plusieurs fois jusqu'à la porte secrète, avait pu entendre le son des instruments et la voix du favori qui chantait ses douces mélodies qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours et que le peuple d'Édimbourg lui attribue encore. Ces mélodies étaient pour Marie un souvenir de son séjour de la France, dont les artistes, venus à la suite des Médicis, avaient déjà fait un écho de l'Italie. Mais pour Darnley, elles étaient une insulte, et chaque fois, il s'était retiré plus affermi dans son dessein. À l'heure dite, les conjurés, qui avaient reçu dans la journée le mot de passe, frappèrent à la porte du château et y furent reçus avec d'autant moins de difficulté que Darnley lui-même, enveloppé dans un grand manteau, les attendait à la poterne par laquelle ils furent introduits. Aussitôt, les 150 soldats se glissèrent dans une cour intérieure où ils se rangèrent sous des hangars, autant pour se garantir du froid que pour n'être pas vus sur la neige dont le sol était couvert. Une fenêtre ardemment éclairée donnait sur cette cour. C'était celle du cabinet de la reine. Au premier signal qui leur serait donné par cette fenêtre, les soldats devaient enfoncer la porte et venir au secours des chefs de la conspiration. Ces instructions données, Darnley reconduisit Morton, Ruthwen, Lennox, Lindsay, André Cariou et le bâtard de Douglas dans la chambre contiguë au cabinet et qui n'en était séparée que par une tapisserie qui pendait devant la porte. De là, on pouvait entendre tout ce qui se disait et, d'un seul bond, tomber au milieu des convives. Darnley les laissa dans cette chambre en leur recommandant le silence, puis leur donnant comme signal d'entrée le moment où ils lui entendraient crier « À moi, Douglas !» Il fit le tour par le corridor secret afin qu'en le voyant entrer par sa porte accoutumée, la reine ne prit pas de soupçon de cette visite imprévue. Marie était à souper avec 6 personnes, ayant, disent De Thou et Melville, Rizzio assis à sa droite, tandis qu'au contraire, Campden assure qu'il mangeait debout à un buffet. La conversation était gaie et familière, car chacun s'abandonnait à ce bien-être qu'on éprouve à se sentir bien clos et bien couvert, assis à une table somptueuse, quand la neige vient battre les fenêtres et que le vent mugit dans les cheminées. Tout à coup, Marie, étonnée que le silence le plus profond succédât aux paroles vives et animées que les convives échangeaient entre eux depuis le commencement du souper, et soupçonnant, à la direction de leur regard, que la cause de leur inquiétude était derrière elle, se retourna et aperçut Darnley appuyé au dossier de son fauteuil. La reine tressaillit, car, quoique son mari eût le sourire sur les lèvres, ce sourire avait pris, en regardant Rizzio, une expression si étrange qu'il était évident que quelque chose de terrible allait se passer. Au même instant, Marie entendit dans la chambre voisine un pas lourd et traînant qui s'approchait du cabinet. Puis la tapisserie se souleva et Lord Ruthwen, couvert de son armure dont il pouvait à peine soutenir le poids, pâle comme un fantôme, apparut sur le seuil de la porte et, tirant en silence son épée, il s'appuya dessus. La reine crut qu'il était en délire. « Que voulez-vous, mylord ? » lui dit-elle. « Et pourquoi venez-vous au palais armé ainsi ?»« Demandez cela au roi, madame, » répondit Ruthwen d'une voix sourde. « C'est à lui de vous répondre. »« Expliquez-vous, mylord ! demanda Marie, se retournant vers Darnley. Que signifie un pareil oubli des convenances ?
Cela signifie, madame, répondit Darnley en montrant du doigt Rizzio, qu'il faut que cet homme sorte d'ici à l'instant même.
Cet homme est à moi, mylord, dit Marie en se levant fièrement, et par conséquent n'a d'ordre à recevoir que de moi.
À moi, Douglas ! Cria Darnley.
À ces mots, les conjurés, qui depuis quelques instants s'étaient rapprochés de Ruthwen, craignant, tant était versatile le caractère de Darnley, qu'il ne les eût fait venir inutilement et n'osa point prononcer le signal, se précipitèrent avec tant de rapidité dans la chambre qu'ils renversèrent la table. Alors David Rizzio, voyant que c'était à lui que l'on en voulait, se jeta derrière la reine à genoux, saisissant le bas de sa robe et criant en italien « Giustizia ! Giustizia !» En effet, la reine, fidèle à son caractère, ne se laissant point intimider par cette invasion terrible, se mit devant Rizzio et l'abrita derrière sa majesté. Mais elle comptait trop sur le respect de cette noblesse, habituée depuis 5 siècles à lutter corps à corps avec ses rois. André Carew lui mit un poignard sur la poitrine et la menaça de la tuer si elle s'obstinait plus longtemps à défendre celui dont la mort était résolue. Alors Darnley, sans égard pour la grossesse de la reine, la prit à bras le corps et l'enleva de devant Rizzio, qui resta à genoux, pâle et tremblant, tandis que le bâtard de Douglas, vérifiant la prédiction de l'astrologue qui avait averti Rizzio de se défier d'un certain bâtard, tirant le propre poignard du roi, l'enfonçant dans la poitrine du ministre, qui tomba blessé, mais non pas mort. Aussitôt, Morton le prit par les pieds et le tira du cabinet dans la chambre, laissant sur le plancher cette longue trace de sang que l'on y montre encore. Puis, arrivé là, chacun se rua sur lui comme à une curée et s'acharnant au cadavre qui fut percé de 56 coups de poignard. Pendant ce temps, Darnley maintenait la reine qui, croyant que tout n'était point fini, ne cessait de crier grâce. Mais Ruthwen reparut, plus pâle que la première fois, et, à la demande de Darnley, qui s'informait si Rizzio était mort, il fit de la tête un signe affirmatif. Puis, comme dans l'état de convalescence où il était, il ne pouvait supporter une plus longue fatigue, il s'assit, quoique la reine, que Darnley avait enfin lâchée, fût restée debout à la même place. À ce coup, Marie ne put se contenir.
« My lord » cria-t-elle, « qui vous a permis de vous asseoir devant moi et d'où vous vient une pareille insolence ?»«
Madame, » répondit Ruthwen, « ce n'est point par insolence mais par faiblesse que j'en agis ainsi, car je viens de prendre, pour rendre service à votre mari, plus d'exercice que les médecins ne me le permettent. » Puis, se retournant vers un valet, «
Donnez-moi un verre de vin, » dit-il en montrant, avant de le remettre dans la gaine, son poignard tout sanglant à Darnley, « car voici la preuve que je l'ai bien gagné. »
Le valet obéit et Ruthwen vida son verre avec autant de tranquillité que s'il venait d'accomplir l'action la plus innocente.
« My lord !» dit alors la reine en faisant un pas vers lui. « Il se peut que, comme je suis une femme, malgré le désir et la volonté que j'en ai, je ne trouve jamais l'occasion de vous rendre ce que vous me faites. Mais, ajouta-t-elle en frappant avec énergie son ventre de sa main, « celui que je porte là et dont vous eussiez dû respecter les joues, puisque vous respectez si peu ma majesté, me vengera un jour de toutes ces insultes. »
Puis, avec un geste à la fois superbe et menaçant, elle se retira par la porte de Darnley qu'elle referma derrière elle. En ce moment, on entendit une grande rumeur dans la chambre de la reine. Huntley, Dattle et Bothwell, que nous allons bientôt voir jouer un rôle si important dans la suite de cette histoire, soupaient réunis dans un autre vestibule du palais, lorsque tout à coup ils avaient entendu des clameurs et des bruits d'armes, de sorte qu'ils étaient accourus en toute hâte et que Dattle, qui marchait le premier, ayant heurté du pied sans savoir qui il était le cadavre de Rizzio, qui était étendu au haut de l'escalier, ils avaient cru, en voyant un homme assassiné, qu'on en voulait au jour du roi et de la reine, et avaient mis l'épée à la main pour forcer la porte que gardait Morton. Mais dès que Darnley put comprendre ce dont il s'agissait, il s'élança du cabinet, suivi de Ruthwen, et se montrant au nouveau venu.
« Mylord, dit-il, la personne de la reine et la mienne sont en sûreté, et il ne s'est rien passé ici que par nos ordres. Retirez-vous donc, vous en saurez davantage lorsqu'il en sera temps. »
Quant à celui-ci, en soulevant la tête de Rizzio par les cheveux, tandis que le bâtard de Douglas éclairait avec une torche sa figure, afin qu'on pût la reconnaître, « Voyez qui il est, et si c'est la peine de vous faire pour lui une mauvaise affaire. » Effectivement, dès que Huntley, Dattol et Bothwell eurent reconnu le ministre musicien, ils remirent leurs épées au fourreau et, ayant salué le roi, se retirèrent. Marie était sortie avec une seule pensée dans le cœur, la vengeance. Mais elle avait compris qu'elle ne pouvait se venger à la fois de son mari et de ses compagnons. Elle mit donc en œuvre toutes les séductions de son esprit et de sa beauté pour détacher le roi de ses complices. La chose ne lui fut pas difficile. Lorsque cette furie brutale qui emportait souvent Darnley au-delà de toute limite fut calmée, il s'épouvanta lui-même du crime qu'il avait commis et, tandis que les assassins, réunis à Muret, décidaient qu'on lui donnerait cette couronne matrimoniale tant ambitionnée, Darnley, aussi léger que violent, aussi pusillanime que cruel, passait dans la chambre même de Marie, en face du sang à peine essuyé, un autre traité par lequel il s'engageait à livrer ses complices. En effet, 3 jours après l'événement que nous venons de raconter, les meurtriers apprirent une étrange nouvelle, c'est que Darnley et Marie, accompagnés de Lord Seton, s'étaient échappés ensemble du palais d'Holyrood. 3 jours encore après, une proclamation signée de Marie et datée de Dunbar parut, qui appelait autour de la reine, en son nom et en celui du roi, tous les nobles et les barons d'Écosse, y compris ceux qui avaient été compromis dans l'affaire de la course en tous sens, à qui, non seulement elle accordait un plein et entier pardon, mais encore rendait toute sa confiance. De cette manière, elle détachait la cause de Muret de celle de Morton et des autres assassins, qui, à leur tour, voyant qu'il n'y avait plus de sûreté pour eux en Écosse, se réfugièrent en Angleterre, où tout ennemi de la reine, malgré les bonnes relations qui régnaient en apparence entre Marie et Élisabeth, était toujours sûr de trouver un bon accueil. Quant à Bothwell, qui avait voulu s'opposer à l'assassinat, il fut nommé Lord Gardien de toutes les marches du royaume. Malheureusement pour son honneur, Marie, toujours plus femme que reine, tandis qu'au contraire Élisabeth était toujours plus reine que femme, ne fut pas plutôt redevenue puissante que son premier acte royal fut de faire exhumer Rizzio, qui avait été enterré sans appareil au seuil du temple le plus proche du château d'Holyrood, et de le faire transporter dans la sépulture des rois d'Écosse, se compromettant plus encore par les honneurs qu'elle rendait aux morts que par la faveur qu'elle accordait aux vivants. Cette démonstration si imprudente amena naturellement de nouvelles querelles entre Marie et Darnley. Ces querelles furent d'autant plus amères que, comme on le comprend bien, la réconciliation entre le mari et la femme, du moins de la part de cette dernière, n'avait jamais été que feinte. De sorte que, se sentant plus forte encore de sa grossesse, elle ne garda plus de mesure et, quittant Darnley, elle se rendit de Dunbar au château d'Édimbourg où, le 19 juin 1566, c'est-à-dire 3 mois après l'assassinat de Rizzio, elle accoucha d'un fils qui fut depuis Jacques VI. Aussitôt délivrée, Marie fit venir Jacques Melville, son envoyé ordinaire près d'Élisabeth, et le chargea de porter cette nouvelle à la reine d'Angleterre, la priant en même temps d'être la marraine du royal enfant. En arrivant à Londres, Melville se présenta aussitôt au palais. Mais comme il y avait bal à la cour, il ne put voir la reine et se contenta de faire savoir au ministre Cécile la cause de son voyage en le priant de solliciter de sa maîtresse une audience pour le lendemain. Élisabeth figurait dans un quadrille au moment où Cécile, s'approchant d'elle, lui dit tout bas « La reine Marie d'Écosse vient d'accoucher d'un fils. » À ces paroles, elle pâlit affreusement et, regardant autour d'elle d'un œil égaré et comme si elle était prête à défaillir, elle alla s'appuyer contre un fauteuil. Puis, bientôt, ne pouvant se tenir debout, elle s'assit, renversant la tête en arrière et plongée dans une douloureuse rêverie. Alors, une des femmes de la cour, fendant le cercle qui s'était formé autour de la reine, s'approcha d'elle, inquiète, et lui demanda à quoi elle songeait si tristement. « Hé, madame !» répondit Élisabeth avec impatience. « Ne savez-vous pas que Marie Stuart est accouchée d'un fils, tandis que moi, je ne suis qu'un tronc stérile qui mourra sans laisser de rejeton ?» Néanmoins, Élisabeth était trop bonne politique, malgré sa facilité à se laisser entraîner à un premier mouvement, pour se compromettre par une plus longue manifestation de sa douleur. Aussi, le bal n'en continua-t-il pas moins, et le quadrille interrompu fut repris et terminé. Le lendemain, Melville eut son audience. Élisabeth le reçut à merveille, l'assurant de tout le plaisir que lui avait causé la nouvelle dont il était porteur, et qu'il avait, disait-elle, guéri d'une maladie dont elle était atteinte depuis 15 jours. Melville lui répondit que sa maîtresse s'était empressée de lui faire part de sa joie, sachant qu'elle n'avait pas de meilleur ami. Mais il ajouta que cette joie avait manqué coûter la vie à Marie, tant sa couche avait été douloureuse. Comme il revenait pour la troisième fois sur ce point, dans le but d'augmenter encore l'aversion de la reine d'Angleterre pour le mariage,
« Soyez tranquille, Melville, lui répondit Élisabeth. Vous n'avez que faire d'insister là-dessus, je ne me marierai jamais. Mon royaume me tient de mari et mes sujets sont mes enfants. Quand je serai morte, je veux qu'on grave sur mon tombeau « Sigy Élisabeth, qui régna tant d'années et qui mourut vierge. »
Melville profita de cette occasion pour appeler à Élisabeth le désir qu'elle avait manifesté 3 ou 4 ans auparavant de voir Marie. Mais, outre les affaires de son royaume, qui nécessitaient, dit Élisabeth, sa présence au cœur de ses états, elle ne se souciait point, d'après ce qu'elle avait entendu dire de la beauté de sa rivale, d'aller s'exposer à un parallèle désavantageux à son orgueil. Elle se contenta donc de remettre sa procuration au comte de Bedford, qui partit avec plusieurs autres seigneurs pour le château de Stirling, où le jeune prince fut baptisé en grande pompe et reçut le nom de Charles Jacques. On remarqua que Darnley ne parut point à cette cérémonie et que son absence parut fort scandaliser l'envoyé de la reine d'Angleterre. Au contraire, Jacques Hepburn, comte de Bothwell, y tenait le premier rang. C'est que, depuis le soir où Bothwell était accouru au cri de Marie pour s'opposer au meurtre de Rizzio, il avait fait un grand chemin dans la faveur de la reine, au parti de laquelle il paraissait lui-même s'être franchement attaché, à l'exclusion des 2 autres, qui étaient ceux du roi et du comte de Murray. Bothwell était un homme déjà âgé de 35 ans, chef de la puissante famille d'Hepburn, qui avait une grande influence dans le Lothian oriental et dans le comté de Berwick. Orette, violent, brutal, adonné à toutes les débauches et capable de tout pour satisfaire une ambition qu'il ne se donnait même pas la peine de dissimuler. Dans sa jeunesse, il avait passé pour brave, mais depuis longtemps, il n'avait eu aucune occasion sérieuse de tirer l'épée. Si l'autorité du roi avait été ébranlée par le crédit de Rizzio, elle fut entièrement renversée par celui de Bothwell. Les grands, suivant l'exemple du favori, ne se levaient plus devant Darnley et cessèrent peu à peu de le traiter même comme leur égal. Son train fut diminué, on lui ôta sa vaisselle d'argent, et quelques officiers qui restèrent auprès de lui lui firent acheter leurs services par les dégoûts les plus amers. Quant à la reine, elle ne prenait plus même la peine de cacher son aversion pour lui, l'évitant sans ménagement, à tel point qu'un jour qu'elle était allée avec Bothwell à Alloway, elle en repartit aussitôt parce que Darnley les y était venus rejoindre. Le roi, cependant, prit encore patience, mais une nouvelle imprudence de Marie amena enfin la catastrophe terrible que, depuis la liaison de la reine avec Bothwell, quelques-uns prévoyaient déjà. Vers la fin du mois d'octobre 1566, comme la reine tenait une cour de justice à Edinburgh, on vint lui annoncer que Bothwell, en cherchant à s'emparer d'un malfaiteur nommé John Elliot du parc, avait été blessé grièvement à la main. La reine, qui allait se rendre au conseil, remit aussitôt la séance au lendemain et, ayant donné l'ordre qu'on lui sellât un cheval, elle partit pour le château de l'Ermitage qu'habitait Bothwell et fit toute la route d'une traite, quoiqu'il y eût 20 000 et qu'il lui fallût traverser des bois, des marais et des rivières. Puis, après être restée quelques heures en tête-à-tête avec lui, elle repartit avec la même diligence pour Edinburgh, où elle fut de retour dans la nuit. Quoique cette démarche eût fait grand bruit, envenimée qu'elle fût encore par les ennemis de la reine, qui appartenaient surtout à la religion réformée, Darnley ne la prit que près de 2 mois après, c'est-à-dire lorsque Bothwell, complètement guéri, était de retour avec la reine à Edinburgh. Alors Darnley crut qu'il ne devait pas supporter plus longtemps de pareilles humiliations. mais comme, depuis sa trahison envers ses complices, il n'eût pas trouvé dans toute l'Écosse un noble qui eût voulu tirer l'épée pour lui, il résolut d'aller trouver le comte de Lennox, son père, espérant que par son crédit il pourrait rallier les mécontents qui, depuis la faveur de Bothwell, étaient en grand nombre. Malheureusement, indiscret et imprudent comme d'habitude, Darnley confia ce projet à quelques-uns de ses officiers qui prévinrent Bothwell de l'intention de leur maître. Bothwell ne parut s'opposer aucunement à ce voyage. Mais Darnley était à peine à 1 mile d'Édimbourg qu'il ressentit de violentes douleurs. Il n'en continua pas moins sa route et arriva fort malade à Glasgow. Il fit aussitôt venir un célèbre médecin nommé Jacques Abrenet, qui lui trouva le corps couvert de pustules et déclara sans hésitation aucune qu'il avait été empoisonné. Cependant, d'autres assurent, et de ce nombre est Walter Scott, que cette maladie n'était rien autre chose que la petite vérole. Quoi qu'il en soit, la reine, en présence du danger que courait son mari, parut oublier ses ressentiments et, au risque de ce qui pouvait en résulter de fâcheux pour elle, elle se rendit près de Darnley après s'être fait précéder de son médecin. Il est vrai que, si l'on en croit les lettres suivantes datées de Glasgow et qu'on accusa Marie d'avoir écrit à Bothwell, elle connaissait trop bien la maladie dont il était atteint pour croire à la contagion. Comme ces lettres sont peu connues et nous paraissent fort curieuses, nous les transcrivons ici. Plus tard, nous dirons comment elles tombèrent au pouvoir des seigneurs confédérés et, de leurs mains, passèrent dans celle d'Élisabeth qui, toute joyeuse, s'écria en les recevant « Par la mort Dieu, je tiens donc enfin sa vie et son honneur entre mes mains. » Première lettre. Quand je suis partie du lieu où j'avais laissé mon cœur, jugez dans quel état j'étais, pauvre corps sans âme. Aussi, pendant tout le dîner, n'ai-je parlé à personne et personne n'a-t-il osé s'approcher de moi, car il était facile de voir qu'il n'y faisait pas bon. Lorsque je suis arrivée à 1 lieue de la ville, le comte de Lennox m'a envoyé un de ses gentilshommes pour me complimenter de sa part et pour l'excuser de ce qu'il n'était pas venu lui-même. Il m'a fait dire en outre qu'il n'osait se présenter devant moi depuis la réprimande que j'avais faite à Cunningham. Ce gentilhomme m'a prié, comme de son propre mouvement, d'examiner la conduite de son maître pour vérifier si mes soupçons étaient fondés. Je lui ai répondu que la peur était une maladie incurable, que le comte de Lennox ne serait pas si agité si sa conscience ne lui reprochait rien, et que s'il m'était échappé quelque vivacité, ce n'était que de justes représailles de la lettre qu'il m'avait écrite. Ce qui me fait croire qu'ils sont tous dans mes intérêts. De plus, ils en parlent en fort bons termes, ainsi que de son fils. Le roi envoya chercher hier Joachim et lui demanda pourquoi je ne logeais point avec lui, ajoutant que ma présence le guérirait bientôt. Et me demanda aussi dans quel dessein j'étais venu, si c'était pour me réconcilier avec lui, si vous étiez ici, si j'avais fait dresser l'état de ma maison, si j'avais pris Paris et Gilbert pour secrétaire, et si j'étais toujours dans la résolution de congédier Joseph. Je ne sais qu'il a si bien instruit. Il n'est point jusqu'au mariage de Sébastien dont il ne soit informé. Je lui ai demandé l'explication d'une de ses lettres dans laquelle il se plaignait de la cruauté de certaines gens. Il m'a répondu qu'il était frappé, mais que ma présence lui causait tant de joie qu'il croyait en mourir. Il m'a fait quelques reproches de ceux qu'il me trouvait rêveuse. Je l'ai quitté pour aller souper, il m'a prié de revenir. J'y suis allée. Il m'a fait alors l'histoire de sa maladie et m'a dit qu'il ne voulait faire qu'un testament par lequel il me laisserait tout, ajoutant que j'étais un peu la cause de son mal et qu'il attribuait à mon refroidissement. « Vous me demandez, ajouta-t-il, quels sont ces gens dont je me plains? C'est de vous, cruel, de vous, que je n'ai jamais pu apaiser par mes larmes et par mon repentir. Je sais que je vous ai offensé, mais non pas sur l'article que vous me reprochez. J'ai offensé aussi quelques-uns de vos sujets, mais vous me l'avez pardonné. Je suis jeune et vous dites que je retombe toujours dans mes fautes. Mais aussi, un jeune homme comme moi, dépourvu d'expérience, ne peut-il point en faire, manquer à ses promesses, se repentir ensuite et se corriger avec le temps? Si vous voulez me pardonner encore une fois, je vous promets de ne plus vous offenser jamais. Toute la grâce que je vous demande, c'est de vivre ensemble comme deux époux, de n'avoir qu'une même table et qu'un même lit.
Si vous êtes inflexible, jamais je ne me relèverai d'ici. Dites-moi, je vous prie, votre résolution. Dieu seul sait ce que je souffre, et cela parce que je ne m'occupe que de vous, parce que je n'aime et n'adore que vous. Si je vous ai offensé quelquefois, c'est à vous que vous devez vous en prendre, car lorsque quelqu'un m'offense, s'il m'était permis de me plaindre à vous, je ne confierais point mes chagrins à d'autres. Mais lorsque nous sommes mal ensemble, je suis forcé de les renfermer en moi-même, et cela me rend fou. » Il m'a ensuite fort pressé de rester avec lui et de loger dans sa maison. Mais je m'en suis excusé et lui ai répondu qu'il avait besoin d'être purgé et qu'il ne pouvait l'être commodément à Glasgow. Alors il m'a dit qu'il savait que j'avais fait venir une litière pour lui, mais qu'il eût mieux aimé faire le voyage avec moi. Il croyait, je pense, que j'avais le dessein de l'envoyer dans quelque prison. Je lui ai répondu que je le ferais conduire à Craigmiller, qu'il y trouverait des médecins, que je resterais près de lui et que nous serions à portée de voir mon fils. Il m'a répondu qu'il ira où je voudrais le conduire, pourvu que je lui accorde ce qu'il m'a demandé. Il ne veut, au reste, être vu de personne. Il m'a dit plus de 100 jolies choses que je ne puis vous rapporter et dont vous seriez vous-même surpris. Il ne voulait point me laisser aller, il voulait me faire veiller toute la nuit. Pour moi, je faisais semblant de tout croire et je paraissais m'intéresser véritablement à lui. Au reste, je ne l'ai jamais vu si petit ni si humble, et si je n'avais su combien son cœur s'épanche facilement et combien le mien est impénétrable à tout autre trait qu'à ceux dont vous l'avez blessé, je crois que j'aurais pu me laisser attendrir. Mais que cela ne vous alarme pas, je mourrai plutôt que de renoncer à ce que je vous ai promis. Pour vous, songez à en user de même vis-à-vis de ces perfides qui feront tous leurs efforts pour vous éloigner de moi. Je crois que tous ces gens-là ont été jetés dans le même moule. Celui-ci a toujours la larme à l'œil, il s'incline devant tout le monde, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il veut les intéresser en sa faveur et se faire plaindre. Son père a jeté aujourd'hui le sang par le nez et par la bouche. Jugez ce que signifient ces symptômes. Je ne l'ai point encore vu car il garde la maison. Le roi veut que je lui donne à manger moi-même ou sans cela il ne mange point. Mais quoi que je fasse, vous n'y serez pas plus trompé que je ne m'y trompe moi-même. Nous sommes unis, vous et moi, à deux espèces de gens bien haïssables. Que l'enfer brise donc ses nœuds et que le ciel en forme de plus beau, que rien ne puisse rompre, qu'il fasse de nous le couple le plus tendre et le plus fidèle qui soit jamais. Voilà la profession de foi dans laquelle je veux mourir. Excusez mon griffonnage, il faudra que vous en deviniez plus de la moitié, mais je n'y sais point de remède. Je suis forcé de vous écrire à la hâte, tandis que tout le monde dort ici. Mais soyez tranquille, je prends à ma veille un plaisir infini, car je ne puis dormir ainsi que les autres, ne pouvant dormir comme je le voudrais, c'est-à-dire entre vos bras. Je vais me mettre au lit, demain j'achèverai ma lettre. J'ai trop de choses à vous mander, la nuit est trop avancée. Jugez de ma peine. C'est à vous que j'écris, c'est de moi que je vous entretiens, et je suis forcé de finir. Je ne puis cependant m'empêcher de remplir à la hâte ce qui me reste de papier. Maudits soient les cervelets qui me tourmentent si fort. Sans lui, je ne pourrais vous entretenir de choses plus agréables. Il n'est pas fort changé, et cependant, il en a pris beaucoup. Il m'a, au reste, presque fait mourir par la fétidité de son haleine, car il l'a maintenant plus mauvaise encore que celle de votre cousin. Vous devinez que c'est une nouvelle raison pour que je ne m'approche pas de lui. Au contraire, je m'en éloigne le plus que je peux et me tiens sur une chaise au pied de son lit. Voyons si je n'oublie rien. L'envoyé de son père pendant la route. L'interrogation sur Joachim. L'état de ma maison. Les gens de ma suite. Sujet de mon arrivée. Joseph. Entretien entre lui et moi. L'envie qu'il a de me plaire et son repentir. Interprétation de sa lettre. Le sieur de Lewiston. Ah, j'oubliais cela. Hier, Lewiston dit tout bas pendant le souper à Delarère de boire à la santé de qui je savais bien et de me prier d'y faire honneur. Après le souper, comme je m'appuyais sur son épaule auprès du feu, il me dit « N'est-il point vrai que voilà des visites bien agréables pour ceux qui les font et ceux qui les reçoivent ?
Cependant, quelque satisfaits qu'ils paraissent de votre arrivée, je défie que leur joie égale le chagrin de celui que vous avez laissé seul aujourd'hui et qui ne sera jamais content qu'il ne vous revoie. Je lui demandai de qui il voulait me parler. Il me répondit alors en me serrant le bras « D'un de ceux qui ne vous ont pas suivi, et parmi ceux-là, il vous est facile de deviner qui je veux dire. » J'ai travaillé jusqu'à 2 heures au bracelet. J'y ai enfermé une petite clé qui est attachée par 2 cordons. Il n'est pas aussi bien travaillé que je le voudrais, mais je n'ai pas eu le temps de le faire mieux. Je vous en ferai la première fois un plus beau. Prenez garde qu'on ne vous le voie, car j'y ai travaillé devant tout le monde, et à coup sûr, il serait reconnu. Je reviens toujours, malgré moi, à l'attentat horrible que vous me conseillez. Vous me forcez à des dissimulations et surtout à des trahisons qui me font frémir. J'aimerais mieux mourir, croyez-moi, que de commettre de pareilles actions. Car cela me fait saigner le cœur. Il ne veut point me suivre que je ne lui promette de n'avoir qu'une même table et qu'en même lit que lui, comme auparavant, et de ne point l'abandonner si souvent. Si j'y consens, il fera, dit-il, tout ce que je voudrais et me suivra partout. Cependant, il m'a prié de retarder mon départ de 2 jours. J'ai faim de consentir à tout ce qu'il voulait, mais je lui ai dit de ne parler à personne de notre réconciliation, de peur qu'elle ne causât de l'ombrage à quelque seigneur. Enfin, je l'emmènerai partout où je voudrais. Hélas, je n'ai jamais trompé personne. Mais que ne ferais-je pas pour vous plaire ? Ordonnez, et quoi qu'il puisse arriver, j'obéirai. Mais voyez-vous même si l'on ne pourrait pas imaginer quelque secret moyen par forme de remède. Il doit se purger à Craig Miller et y prendre les bains. Il sera quelques jours sans sortir. Autant que je puis le voir, il est fort inquiet. Cependant, il a grande confiance dans ce que je lui dis, mais sa confiance ne va pas jusqu'à s'ouvrir à moi. Si vous voulez, je lui découvrirai tout. Je ne puis avoir de plaisir à tromper quelqu'un qui est dans la confiance. Au reste, il n'en sera que ce que vous voudrez. Ne m'en estimez pas moins pour cela. C'est vous qui me l'avez conseillé. Jamais la vengeance ne m'eût emporté si loin. Quelquefois, il m'attaque par un endroit bien sensible et il me touche au vif quand il me dit que ses crimes à lui sont connus, mais qu'il s'en commet tous les jours de plus grands, que l'on entreprend inutilement de cacher, parce que tous les crimes, quels qu'ils soient, grands et petits, viennent à la connaissance des hommes et font la matière ordinaire de leurs entretiens. Il ajoute quelquefois, en me parlant de Madame de Rère, « Je souhaite que ses services vous fassent honneur. » Il m'a assuré que bien des gens croyaient, et qu'il le croyait lui-même, que je n'étais pas sa maîtresse. C'est sans doute parce que j'ai rejeté les conditions qu'il m'offrait. Enfin, il est sûr qu'il est fort inquiet au sujet de ce que vous savez, et qu'il soupçonne même que l'on en veut à sa vie. Il entre en désespoir toutes les fois que la conversation tombe sur vous, sur Lexington et sur mon frère. Au reste, il ne dit ni bien ni mal des absents, mais, au contraire, il évite toujours d'en parler. Son père garde la maison, je ne l'ai point encore vu. Les Hamilton sont ici en grand nombre et m'accompagnent partout. Tous les amis de l'autre me suivent chaque fois que je vais le voir. Il m'a prié de me trouver demain à son lever. Mon courrier vous dira le reste. Brûlez ma lettre, il y aurait du danger à la garder. D'ailleurs, elle n'en vaut guère la peine, n'étant remplie que de pensées noires. Quant à vous, ne vous offensez pas si je suis triste et inquiète aujourd'hui, que pour vous plaire, je passe par-dessus l'honneur, les remords et les dangers. Ne prenez donc pas en mauvaise part ce que je vous dis et n'écoutez point les interprétations malignes du frère de votre femme. C'est un fourbe que vous ne devez point entendre au préjudice de la plus tendre et de la plus fidèle maîtresse qui fut jamais. Ne vous laissez pas surtout fléchir par cette femme. Ces feintes larmes ne sont rien en comparaison des larmes réelles que je verse et de ce que l'amour et la constance me font souffrir pour parvenir à lui succéder. C'est pour cela seul que je trahis, malgré moi, tous ceux qui pourraient traverser mon amour. Dieu me fasse miséricorde et vous envoie toutes les prospérités que vous souhaite une humble et tendre amie qui attend bientôt de vous une autre récompense. Il est fort tard, mais c'est toujours à regret que je quitte la plume quand je vous écris. Cependant, je ne finirai ma lettre que lorsque je vous aurai baisé les mains. Pardonnez-moi de ce qu'elle estime à l'écrite. Peut-être la fais-je exprès ainsi pour que vous soyez obligé de la relire plusieurs fois. J'ai transcrit à la hâte ce que j'avais mis sur mes tablettes et le papier m'a manqué. Souvenez-vous d'une tendre amie et écrivez-lui souvent. Aimez-moi aussi tendrement que je vous aime et souvenez-vous des paroles de Madame de Rère, des Anglais, de sa mère, du comte d'Argyle, du comte de Bothwell, de la demeure d'Édimbourg. Deuxième lettre. Il paraît que vous m'avez oublié pendant votre absence, d'autant plus que vous m'aviez promis, en partant, de me mander dans un plus long détail tout ce qui se passerait de nouveau. L'espérance de recevoir de vos nouvelles m'avait causé presque autant de joie qu'aurait pu m'en apporter votre retour. Vous l'avez plus différé que vous ne me l'aviez promis. Pour moi, quoique vous ne m'écriviez point, je fais toujours mon rôle. Je le mènerai lundi à Craig Miller et il y passera tout le mercredi. J'irai ce jour-là à Édimbourg pour m'y faire saigner, à moins que vous n'en ordonniez autrement. Il est plus gai qu'à l'ordinaire et il se porte mieux que jamais. Il me dit tout ce qu'il peut pour me persuader qu'il m'aime. Il a pour moi 1000 attentions et il me prévient en tout. Tout cela m'est si agréable que je n'entre jamais chez lui, que mon mal de côté ne me reprenne, tant sa compagnie me pèse. Si Paris m'apportait ce que je lui ai demandé, je serais bientôt guéri. Si vous n'êtes point encore de retour lorsque j'irai où vous savez, écrivez-moi, je vous prie, et mandez-moi ce que vous voulez que je fasse, car si vous ne conduisez pas les choses avec prudence, je prévois que tout le fardeau tombera sur moi. Examinez tout et pesez mûrement la chose. Je vous envoie ma lettre par Beaton, qui partira le jour qui a été assigné à Balfour. Il ne me reste plus qu'à vous prier de m'informer de votre voyage. Glasgow, ce samedi matin. Troisième lettre. Je me suis arrêté, où vous savez, plus longtemps que je n'aurais fait, si ce n'eût été pour tirer de lui une chose que le porteur de ses présentes vous apprendra. C'est là une belle occasion d'envelopper tous nos desseins. Je lui ai promis d'amener demain la personne que vous savez. Prenez soin du reste si vous le trouvez bon. Hélas, j'ai manqué à nos conventions car vous m'avez défendu de vous écrire ou de vous dépêcher un courrier. Au reste, mon dessein n'est point de vous offenser. Si vous saviez de quelle crainte je suis agité, vous n'auriez pas vous-même tant d'ombrages et de soupçons. Mais je les prends en bonne part, persuadé que je suis, qu'ils n'ont d'autre principe que l'amour, amour que j'estime plus que tout ce qui est sous le ciel. Mes sentiments et mes bienfaits me sont de sûrs garants de cet amour et me répondent de votre cœur. Ma confiance est entière sur cet article. Mais expliquez-vous de grâce et ouvrez-moi votre âme. Autrement, je craindrais que, par la fatalité de mon étoile et par l'influence trop heureuse des astres sur des femmes moins tendres et moins fidèles que moi, je ne sois supplantée dans votre cœur comme Médée le fut dans celui de Jason. Non que je veuille vous comparer à un amant aussi infortuné que Jason et me mettre en parallèle avec un monstre tel que Médée, quoique vous ayez assez d'influence sur moi pour me forcer à lui ressembler toutes les fois que l'exigera notre amour et qu'il s'agira de me conserver votre cœur qui m'appartient et qui n'appartient qu'à moi seul. Car j'appelle m'appartenir ce que j'ai acheté par l'amour tendre et constant dont j'ai brûlé pour vous, amour aujourd'hui plus vif que jamais et qui ne finira qu'avec ma vie. Amour, enfin, qui me fait mépriser et les dangers et les remords qui en seront peut-être les tristes suites. Pour prix de ce sacrifice, je ne vous demande qu'une grâce, c'est de vous souvenir d'un lieu qui n'est pas loin d'ici. Je n'exige pas que vous teniez demain votre promesse, mais je veux vous voir afin de dissiper vos soupçons. Je ne demande qu'une chose à Dieu, c'est qu'il vous fasse lire dans mon cœur, qui est moins à moi qu'à vous, et qu'il vous préserve de tout malheur, du moins pendant ma vie. Cette vie ne m'est chère qu'autant qu'elle vous plaît et que je vous plais moi-même. Je vais me remettre au lit. Adieu, donnez-moi demain matin de vos nouvelles, car je serai inquiète jusqu'à ce que j'en aie. Semblable à l'oiseau échappé de sa cage ou à la tourterelle qui a perdu son compagnon, je serai seule à pleurer votre absence, si courte qu'elle puisse être. Cette lettre, plus heureuse que moi, ira ce soir où je ne puis aller, pourvu que le courrier ne vous trouve point endormi comme je le crains. Je n'ai point osé l'écrire en présence de Joseph, de Sébastien et de Joachim, qui ne faisait que de me quitter quand j'ai commencé. Ainsi qu'on le voit, et en supposant toujours ces lettres réelles, Marie s'était prise pour Boswell d'une de ces passions insensées, d'autant plus fortes chez les femmes qui y sont en proie, que l'on comprend moins ce qui a pu les inspirer. Boswell n'était plus jeune, Boswell n'était point beau, et cependant, Marie lui sacrifiait un jeune époux qui passait pour un des plus beaux hommes de son siècle. C'était comme une espèce de magie. Aussi, Darnley, seul obstacle à la réunion des deux amants, avait-il été condamné déjà depuis longtemps, sinon par Marie, du moins par Boswell. Mais comme la force de son tempérament avait triomphé du poison, on chercha un autre genre de mort. La reine, ainsi qu'elle l'annonce dans sa lettre à Boswell, avait refusé de ramener Darnley avec elle et était revenue seule à Édimbourg. Arrivée en cette ville, elle donna ordre que le roi fût transporté à son tour dans une litière. Mais au lieu de le faire conduire à Stirling ou à Holyrood, elle décida qu'il serait logé dans l'abbaye de l'église des Champs. Le roi fit quelques difficultés lorsqu'il connut cette disposition. Cependant, comme il n'avait aucun pouvoir de s'y opposer, il se contenta donc de se plaindre de la solitude de la demeure qu'on lui assignait. Mais la reine lui fit répondre qu'elle ne pouvait le recevoir en ce moment, ni à Holyrood, ni à Stirling, de peur, si sa maladie était contagieuse, qu'il ne la communiquât à son fils. Force fut donc à Darnley de se contenter du séjour qu'on lui assignait. C'était une abbaye isolée et peu faite par sa position pour dissiper les craintes que le roi avait conçues, car elle était située entre deux églises ruinées et deux cimetières. La seule maison qui en fut distante d'un trait d'arbalète à peu près appartenait aux Hamilton, et comme ils étaient les ennemis mortels de Darnley, le voisinage n'était rien moins que rassurant. Plus loin, vers le nord, s'élevaient quelques méchantes cabanes que l'on appelait « carrefour des voleurs ». En faisant le tour de son nouveau domicile, Darnley s'aperçut que deux trous assez grands pour donner chacun passage à un homme avaient été pratiqués dans les murs. Il demanda que ces trous, par lesquels des malfaiteurs pouvaient s'introduire, fussent bouchés. On promit d'y envoyer des maçons, mais on n'en fit rien et les trous restèrent libres et ouverts. Le lendemain de son arrivée à Kirchfield, le roi aperçut de la lumière dans cette maison voisine de la sienne et qu'il croyait déserte. Il s'informa le lendemain à Alexandre Durham, d'où elle venait, et il apprit que l'archevêque de Saint-André avait, sans qu'on sût pourquoi, quitté son palais d'Édimbourg et habité là depuis la veille. Cette nouvelle augmenta encore les inquiétudes du roi, l'archevêque de Saint-André étant un de ses ennemis les plus déclarés. Le roi, abandonné peu à peu de tous ses serviteurs, habitait le premier étage d'un petit pavillon isolé, n'ayant auprès de lui que ce même Alexandre Durham, que nous avons déjà nommé, et qui était son valet de chambre. Darnley, qui avait une amitié toute particulière pour lui, et qui, d'ailleurs, comme nous l'avons dit, craignait à tout instant quelque tentative contre sa vie, lui avait fait transporter son lit dans son appartement, de sorte que tous deux couchaient dans la même chambre. Dans la nuit du 8 février, Darnley réveilla Durham. Il lui semblait entendre marcher dans l'appartement au-dessous de lui. Durham se leva, prit une épée d'une main, une bougie de l'autre et descendit au rez-de-chaussée. Mais quoique Darnley fût bien certain de ne s'être pas trompé, Durham remonta un instant après en disant qu'il n'avait vu personne. La matinée du lendemain se passa sans rien amener de nouveau. La reine mariait un de ses domestiques nommé Sébastien. C'était un Auvergnat qu'elle avait ramené avec elle de France et qu'elle aimait beaucoup. Cependant, comme le roi lui fit dire qu'il y avait deux jours qu'il ne l'avait vue, elle quitta vers les 6 heures du soir la noce et vint lui faire une visite, accompagnée de la comtesse d'Argyll et de la comtesse de Huntley. Pendant qu'elle était là, Durham, en apprêtant son lit, mit le feu à sa paillasse qui fut brûlée, ainsi qu'une partie du matelas, ce qui fit que, les ayant jetés tout enflammés par la fenêtre, de peur que le feu ne se communiquât aux autres meubles, il se trouva sans lit et demanda la permission de revenir coucher à la ville. Mais Darnley, qui se rappelait ses terreurs de la nuit précédente et qui s'étonnait de cette promptitude qu'avait mise Durham à jeter toute sa literie par la fenêtre, le pria de ne point s'éloigner, lui offrant un de ses matelas ou bien même de le recevoir dans son propre lit. Cependant, malgré cette offre, Durham insista, disant qu'il se sentait indisposé et qu'il était bien aise de voir le même soir un médecin. La reine alors intercéda pour Durham et promit à Darnley de lui envoyer un autre valet de chambre pour passer la nuit près de lui. Force fut alors à Darnley de céder, et s'étant fait répéter par Marie qu'elle lui enverrait quelqu'un, il donna pour ce soir le congé à Durham. En ce moment, Paris, dont la reine parle dans ses lettres, entra. C'était un jeune Français qui était depuis quelques années en Écosse et qui, après avoir servi chez Bothwell et Seyton, était actuellement à la reine. En le voyant, elle se leva et, comme Darnley voulait la retenir encore, « Vraiment, dit-elle, c'est impossible, my lord. J'ai déjà quitté pour venir vous voir la noce de ce pauvre Sébastien et il faut que j'y retourne, car j'ai promis de venir masquer à son bal. » Le roi n'osa point insister. Il lui rappela seulement la promesse qu'elle avait faite de lui envoyer un domestique. Marie la lui renouvela encore une fois et sortit avec sa suite. Quant à Durham, il était parti du moment où il en avait reçu la permission.